la maison de Dionysos. Cet espace a été découvert par hasard à la suite de travaux de nivellement. La découverte de vestiges de mosaïques donna suite à des fouilles plus systématiques qui portèrent à la lumière du jour une résidence cossue de la période romaine. Elle a été initialement considérée comme le palais du proconsul romain en raison de la richesse de sa décoration. Ce ne fut qu'à la découverte postérieure du vrai palais dans la même région et la découverte d'autres mosaïques aux alentours que l'on a pu conclure que ce type de décoration était quelque chose d'habituel dans les riches demeures de cette période. Les mosaïques appartiennent aux derniers bâtiments qui ont été construits ici sur les ruines des anciens édifices. Le bâtiment couvre une étendue de 2000 mètres carrés, desquels 556 mètres carrés sont couverts de mosaïques. Le dieu Dionysos, dieu du vin, y est souvent représenté, raison pour laquelle la demeure reçut l'appellation de maison de Dionysos. Elle a été construite vers la fin du 2e siècle après Jésus-Christ et détruite au cours des tremblements de terre du 4e siècle. La taille impressionnante de cette villa, qui dépasse les 40 chambres y compris les 15 sols en mosaïque, témoigne du niveau de vie élevé des habitants pendant la période romaine. La cour centrale, le patio, autour de laquelle étaient construites les chambres principales, constituait le noyau de la maison. Une galerie de colonnes s'ouvrait sur les quatre côtés de la cour. Les toits s'inclinaient vers l'intérieur dans le but de recueillir l'eau de pluie et de la canaliser vers une citerne située sous la cour. La demeure disposait également d'un système d'évacuation des eaux usées, lequel était relié au conducteur central qui passait sous la route. La demeure disposait de pièces qui étaient ouvertes aux visiteurs. Leur sol était décoré de mosaïques impressionnantes et des fresques murales venaient compléter leur ornement. Les chambres à coucher, quant à elles, avaient des sols moins travaillés, décorés de cailloux, tandis que ceux des cuisines, des ateliers, des salles de bain et des toilettes étaient simplement couverts de terre battue. En plus de la cour centrale, la maison possédait deux autres cours à ciel ouvert et une citerne pour les poissons, aquarium. Cette dernière était couverte d'un mortier rose que vous pouvez voir à l'extérieur de l'espace couvert. Les sujets des mosaïques, qui couvraient tous les sols des salles de réception, proviennent de la mythologie grecque. Les mosaïques se trouvent toutes à l'endroit où elles ont été découvertes, à l'exception de la première, qui représente le monstre mythique Scylla. Les mosaïques les plus anciennes sont ornées de formes géométriques et confectionnées de galets de couleurs blanc, noir ou marron. Le stade ultérieur consistait à fabriquer des mosaïques à l'aide de pierres coupées irrégulièrement. Leur perfectionnement technique s'étendit grâce à l'emploi de la tesselle, petit carré coupé. Les mosaïques étaient soit polychromes, soit en noir et blanc. Elles étaient fabriquées par des ateliers d'artisans et dans leur grande majorité, exécutées par les apprentis, tandis que le maître artisan fabriquait la composition principale, qui était en général plus conceptuelle. Les artisans aplanissaient d'abord le sol qui devait par la suite recevoir la mosaïque, puis ils y étendaient un mélange de gravillon et de crépi. Ensuite, on venait y étendre une deuxième couche, faite de petites pierres et de morceaux de poterie, mélangés au mortier à la chaux. Enfin, le tout était couvert d'une fine couche de mortier de chaux, sur lequel les artisans venaient placer les tesselles, tant que celui-ci était encore humide. Pour que la mosaïque devienne encore plus résistante, les artisans frottaient sa surface avec de la poudre de marbre, du sable et de la chaux. Toutes les tesselles provenaient soit de pierres locales, soit de marbre importé, mais aussi de vert pour les couleurs les plus rares, comme l'orange intense, le bleu, des nuances de vert et de jaune ou autres. Leur taille était approximativement d'un centimètre cube, à l'exception de tesselles utilisées pour les formes humaines, qui étaient plus petites. La thématique des mosaïques n'était pas une création de l'artisan. Elle préexistait comme projet, et le propriétaire pouvait choisir le sujet à son souhait. De nombreux objets d'emploi quotidien ont été également trouvés dans cette salle, et sont exposés au musée archéologique de Paphos. En entrant dans le vestibule de la demeure, sur le côté gauche, se trouve une mosaïque très différente des autres. Elle provient d'une demeure hellénistique de la fin du 4e siècle, antérieure à la demeure romaine, et qui a été découverte par hasard pendant la réalisation de travaux pour la fabrication de l'auvent en 1977. L'endroit où la mosaïque a été découverte, n'étant pas accessible au public, elle fut alors déplacée à son emplacement actuel. Cette mosaïque représente le monstre Scylla, connu de l'Odyssée. Il s'agit d'un monstre qui était une combinaison de femmes, de chiens et de poissons. Pourtant, Scylla n'a pas toujours été un monstre. Mais il fut à l'origine une femme d'une grande beauté, dont Glaucos, un beau jeune homme, tomba amoureux. Scylla le repoussa, et Glauco s'adressa alors à la magicienne Circé pour l'aider. Cette dernière, étant amoureuse du jeune homme et jalouse de sa rivale, mit au point un poison qu'elle versa dans le golfe où Scylla avait l'habitude de se baigner. Lorsque Scylla rentra dans l'eau, elle se transforma en un monstre qui resta pour toujours dans la mer, d'où elle terrorise depuis les marins. À côté, un tableau plus petit représente deux dauphins entourés d'un cadre orné de figures géométriques. La mosaïque est fabriquée au moyen de galets blancs, noirs et marrons. Elle est réalisée avec une technique différente de celle des autres mosaïques de la demeure. Il s'agit d'une des plus anciennes mosaïques qui a été trouvée à Chypre, puisqu'elle est datée de la fin du 4e siècle, début du 3e siècle avant Jésus-Christ. Juste en face, nous pouvons voir la première mosaïque de la demeure roumaine. Cette mosaïque représente Narcisse, fils du fleuve Céphis et de la nymphe Lyriopée, d'une beauté tellement exceptionnelle que de nombreuses jeunes filles et de nombreux garçons en tombent amoureux. Hélas, Narcisse était d'un caractère très fier. Il restait insensible à leur amour. Un jour, pendant qu'il chassait, il a été vu par la nymphe Écho, qui tomba passionnément amoureuse de lui. Écho fut méprisée par Narcisse. Alors, le cœur brisé, elle s'enfuit dans la montagne et la forêt et se laissa dépérir. Elle était tellement amaigrie qu'elle avait totalement disparu et ne laissa que sa voix perdurer. Pour cette raison, nous pouvons tous entendre l'écho, mais personne ne peut le voir. Afin de punir Narcisse pour le grand malheur qu'il provoqua, les dieux l'ont condamné à subir le même sort. Ainsi, un jour qu'il était assis sur la rive d'un lac, il vit son reflet dans l'eau et tomba amoureux de sa propre image. Désespéré, il finit par dépérir et mourir. Les dieux eurent néanmoins pitié de lui et ils le transformèrent en fleur, le Narcisse. Cette image représente Narcisse admirant son reflet dans les eaux du lac. Une partie de cette mosaïque a été détruite lors de l'aplanissement du sol. Et pour cette raison, un grand fragment du décor géométrique a fait l'objet d'une restauration récente. À côté de la mosaïque de Narcisse se trouve celle des quatre saisons, qui fut également détruite et restaurée par la suite. Elle se compose de cinq tableaux, un aux quatre angles et un au centre. Sur les images, nous reconnaissons les quatre saisons personnifiées. À l'angle supérieur gauche, nous apercevons l'été, couronné d'épis, tenant à la main une faucille. À l'angle supérieur droit, on distingue le printemps, couronné de fleurs, tenant à la main une houlette, tandis qu'à l'angle inférieur droit se trouve l'automne, couronné de feuilles. Enfin, à l'angle inférieur gauche, nous devinons l'hiver, représenté un homme âgé aux cheveux gris. La figure du centre représente probablement la personnification du temps. Tous les tableaux sont encadrés d'une bordure ornée de cubes en perspective, alors que sur le cadre extérieur, il y a deux inscriptions, Here et Kesi. Ce type d'inscription existait habituellement dans le vestibule des maisons, ce qui nous amène à la conclusion qu'il s'agit de l'entrée de la demeure. En avançant vers le pont en bois, à gauche devant nous, nous nous dirigeons vers la pièce la plus vaste de la maison, de 11,50 m par 8,50 m de dimension. Il s'agit du tablinum, salle de réception, mais aussi salle de banquet. Le sol est décoré d'une mosaïque ornée au centre de scènes de vendange. Sur les trois côtés, une bordure large, au dessin géométrique, représente de petits boucliers, connus sous le nom pelt. Et plus vers l'extérieur, nous devinons un dessin géométrique inspiré du motif de méandre. Les deux bordures du côté ouest ont été malheureusement détruites. Lorsque la pièce était utilisée comme salle de banquet, les invités étaient semi-allongés sur des lits qui étaient placés en forme de pie à l'endroit où se trouve la bordure de bouclier. De cette manière, tous les convives étaient tournés vers le centre où se déroulait probablement une sorte de divertissement, le spectacle de danse par exemple. L'espace derrière les bancs restait libre pour que les serviteurs puissent les servir. À l'entrée de cette pièce, nous pouvons voir un grand tableau représentant Dionysos et son cortège célébrant leur retour triomphal de leur expédition en Inde. Au centre de la composition, le dieu est assis sur un char tiré par des panthères. Le cortège, qui se compose de satyres, de ménades, du dieu Pan qui était moitié homme, moitié bouc, et de deux hindous qui se distinguent par leur peau foncée, prend place de part et d'autre de Dionysos. Du côté gauche et du côté droit du triomphe de Dionysos, vous remarquerez deux figures sans rapport direct avec le sujet du tableau. Ce sont les Dioscures, les frères jumeaux Castor et Pollux, qui sont nés d'un œuf après l'union de leur mère Leda avec Zeus, transformé en cygne, tout comme la belle Hélène de Troie, qui était née d'un deuxième œuf de cette union. Ce sont les vertus dissuasives et de porte-bonheur attribuées aux Dioscures qui permettent de justifier leur présence dans cette scène. Le tableau central est une composition de scènes de vendanges avec des personnages récoltant des raisins dont les vignes apparaissent chargées, mais aussi de scènes de la vie à la campagne. Vous pouvez reconnaître oiseaux et animaux divers. Et au centre, un grand paon encadré d'un petit éros ailé qui lui tient la queue. En rebroussant chemin et en empruntant le pont, nous avançons vers la cour où nous verrons une série de quatre tableaux du côté gauche. Sur le premier figure l'histoire de Piram et Thisbé, deux jeunes Babyloniens qui habitaient des maisons mitoyennes et s'aimaient malgré l'interdiction de leur père. Ils projettent de se retrouver une nuit, en dehors de la ville, sous un mûrier blanc. Thisbé arrive la première, mais la vue d'une lionne à la gueule ensanglantée la fait fuir. Comme son voile lui échappe, il est déchiré par la lionne qui le souille de sang. Lorsque Piram arrive, il découvre avec grand désarroi le voile rouge de sang ainsi que les empreintes du fauve. Tout laissant porter à croire que Thisbé en a été la victime, Piram décide de mettre fin à ses jours. Thisbé découvre près du mûrier le corps sans vie de son amant et préfère alors se donner la mort. Ce mythe nous est rapporté par Ovide dans ses Métamorphoses et fut la source d'inspiration pour les œuvres de Shakespeare, Roméo et Juliette, et le songe d'une nuit d'été. Dans la mosaïque, Thisbé est représenté de pied, tandis que Piram est allongé. Au centre, figure la lionne tenant le voile de Thisbé dans sa gueule. Les deux jeunes sont couronnés de leur prénom inscrit en grec. Le dernier tableau, qui est le plus grand, raconte l'histoire d'Icarios, un horticulteur athénien qui hébergea Dionysos lors de sa visite à la ville. Le dieu lui enseigna la culture de la vigne et la production du vin à partir de ses fruits en guise de remerciement pour son hospitalité. Par là même, Dionysios révéla pour la première fois aux humains la viticulture, mais avertit Icarios de rester très attentif à l'usage qu'il ferait de son vin. Pourtant, ce dernier oublia l'avertissement du dieu et il offrit le vin de sa première récolte aux deux bergers qu'il rencontra sur sa route. Ces derniers, ivres, se crurent empoisonnés et le tuèrent. Sur cette scène, on remarque à gauche le dieu Dionysos, accompagné de la nymphe Acmée, tous deux couronnés de feuilles de vigne et buvant du vin. Au centre, figure Icarios, et juste derrière lui, le carrosse avec sa récolte. À droite, nous apercevons les bergers ivres, tandis que l'inscription « Les premiers buveurs de vin » confirme leur rôle dans la scène. Vous distinguerez également des inscriptions au-dessus d'Icarios, de Dionysos et d'Acmée. Dans le tableau suivant, figurent Poséidon et Amymone, qui étaient une des 50 filles du roi Danaos de Péloponnèse. Autrefois, toutes les sources en argolite s'assèchèrent, et Danaos envoya alors ses filles chercher de l'eau. Amymone rencontra sur sa route un satyre qui chercha à la violer. Poséidon, dieu des yeux, entendit l'appel au secours de la jeune fille et la sauva. Charmé par sa beauté, il lui révéla les emplacements des sources autour de Lerne, mettant ainsi fin à la sécheresse. La mosaïque représente Poséidon tenant son trident qui avance vers Amymone. Au centre, un héros tient d'une main un parapluie en forme de rectangle et de l'autre, un flambeau, tandis qu'une hydrie métallique symbolise l'eau. Le dernier tableau raconte le mythe d'Apollon et Daphné. Daphné était une nymphe, fille du fleuve Pénée, qui jura l'éternelle pureté. Le dieu Apollon tomba amoureux d'elle, mais il n'arriva pas à la faire céder à sa propre volonté. Poursuivie par Apollon, elle demanda désespérée à son père de lui venir en aide. Ce dernier transforma Daphné en laurier, qui dès lors devint l'arbre préféré d'Apollon. Dans le tableau présent, nous retrouvons la scène de transformation de Daphné en laurier. Le fleuve Pénée figure allongé à côté d'elle, tandis qu'Apollon, à droite, l'observe avec un air surpris. Au bout du couloir, nous rencontrons la mosaïque de Phèvre et Hippolyte. Phèvre était la seconde épouse du roi d'Athènes, Thésée. Hippolyte était le fils du roi issu de son premier mariage avec Antiope. Phèdre tomba amoureuse de son beau-fils et un jour, alors que le roi était absent, lui envoya une lettre d'amour. Hippolyte repoussa cependant ses avances et fut alors dénoncée au roi par Phèdre par crainte d'être dévoilée. Elle l'accusa d'avoir cherché son amour. Furieux, Thésée demanda à Poséidon de punir son fils. Poséidon envoya aussitôt un taureau sauvage qui effraya les chevaux du jeune homme qui mourut écrasé. Après la mort d'Hippolyte, Phèdre, tourmenté par ses remords, se suicida. Sur cette scène, Phèdre est assise, alors qu'Hippolyte, embarrassé, tient dans sa main la lettre. Vous distinguerez à côté de la femme un Eros tenant un flambeau allumé qui symbolise la passion de son amour. Il est important de remarquer que l'Eros se trouve du côté de Phèdre, montrant ainsi que les sentiments n'étaient pas réciproques. En avançant vers la gauche, et ensuite à droite, nous nous dirigerons vers une grande salle décorée d'une mosaïque polychrome, ornée de motifs géométriques. Le décor est constitué de deux bandeaux formant des cercles entre eux, ainsi que d'objets et d'outils d'usage quotidien, cratères, hydries, disques et autres s'intercalant. Les espaces entre eux sont ornés d'une grande variété de formes géométriques. Plus à droite, nous rencontrons une belle mosaïque qui présente le rap de Ganymède. Le cadre est constitué d'une composition d'octogones et de méandres. La scène ici représente l'instant où Zeus, transformé en aigle, saisit Ganymède et l'amène au ciel. Ganymède était un berger de Troie qui était considéré comme le plus beau de tous les mortels. En raison de sa grande beauté, Zeus l'enleva pour en faire les chansons des dieux. Cette mosaïque est une copie d'une mosaïque antérieure placée dans une autre pièce. L'artisan, obligé de l'adapter aux dimensions de la nouvelle salle, coupa les extrémités des ailes de l'aigle. En tournant à droite, nous arrivons au patio qui servait de cour intérieure, mais également comme puits de lumière pour l'habitat. Le toit était incliné, comme aujourd'hui, dans le but de recueillir les eaux de pluie afin de les canaliser vers les citernes situées au sous-sol. Autour de la cour, le sol est décoré de mosaïques qui représentent des scènes de chasse. Ce type de scène était populaire et particulièrement apprécié en Égypte du Nord, d'où elles sont propagées dans tout l'Empire romain. Ceci explique la variété des fauves exotiques représentées, parmi lesquelles nombreux sont ceux qui n'appartiennent pas à la faune originaire de Chypre. La représentation du mouflon, le plus grand animal endémique que nous rencontrons à Chypre, est d'une importance singulière. À l'ouest de la cour se trouve la mosaïque la moins complexe parmi toutes celles exposées. Il s'agit d'une mosaïque ornée de motifs géométriques en noir et blanc et dont les tesselles ont deux fois la taille de celles des autres mosaïques. À cet endroit même, se trouvait enterré un trésor important qui fut découvert lors des travaux de l'auvent. Dans une amphore, ont été trouvées approximativement 2500 monnaies ptolémaïques datées de 204 à 88 avant Jésus-Christ et qui constituent le trésor le plus important qui n'ait jamais été trouvé à Chypre. Les monnaies ont été façonnées à Paphos, qui possédait son propre hôtel des monnaies en tant que capitale de l'île. À côté de la mosaïque en noir et blanc, se trouve une chambre au sol en terre battue, puis une deuxième chambre avec une décoration géométrique. Le décor se compose de 4 rangs et 4 tableaux par rang, où figure à chaque fois une forme géométrique distincte. La richesse des couleurs et les formes complexes rendent ces tableaux particulièrement impressionnants. Ce sont des exemples rares en Méditerranée de l'Est, contrairement à la France, où on les rencontre plus souvent. Juste à côté, dans une petite chambre, se trouve un tableau au décor géométrique complexe, avec au centre un paon aux plumes ouvertes. Comme nous l'avons déjà mentionné un peu plus tôt lors de notre parcours, les couleurs intenses utilisées pour les mosaïques, dans ce cas plus précis le bleu, n'étaient pas obtenues à l'aide de pierres de couleur, mais de verre, lequel devait être probablement fabriqué à Paphos, puisque des ateliers ont été découverts dans la ville.